mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile, en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde. Vous êtes sur Radio Escapade et nous sommes le 18 février. Aujourd'hui, un petit tour de la planète avec la reprise des combats en Colombie entre des factions dissidentes des FARC et le LN. Un petit incident nucléaire sans grande portée à Tchernobyl. Oui, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Le site de l'agence pilotée par Elon Musk, la DOGE, piraté dès les premiers jours de sa mise en ligne sur Internet. On va voir aussi ce qui se passe en Turquie avec la politique avec et contre les Kurdes. Et justement aussi un local en France, à Paris, de militants kurdes qui a été attaqué par des hooligans, un petit commando d'extrême droite ce dimanche. On va aller faire un petit tour aussi à Toulouse du côté du tribunal administratif où on discute encore et toujours de l'avenir ou pas de la 69. Et avant ça, deux, trois petits rendez-vous militants pour soutenir différentes causes. C'est à Ganges, c'est au Vigan tout d'abord que vous êtes attendu pour défendre et demander la réouverture de la maternité de Ganges, que vous êtes attendu ce soir à 18h30 à la salle du Cantou, donc au Vigan, avec un appel qui émane du collectif Maternité à défendre. Voilà, une petite réunion publique pour faire le point, le temps donc d'échanger, de s'écouter et de s'organiser pour la suite. Sinon, à Montpellier, des manifestations ont lieu tous les samedis et continueront donc ce samedi aussi pour défendre la culture très mise à mal dans le département de l'Hérault et aussi plus largement sur le plan national. C'est donc un appel de la part des acteurs et actrices de la culture qui se rassemblent aussi, un appel envers le public pour les sensibiliser à la cause et leur demander aussi de venir se joindre à la défense notamment du spectacle vivant et de toutes les petites structures qui dépendent pas mal de certaines subventions. C'est par exemple l'association Bouillon Cube, qu'on connaît bien et qui œuvre sur le territoire, qui mettait ça sur ses réseaux sociaux, il y a une semaine, en expliquant que ça fait déjà donc à l'époque plus d'une semaine qu'ils étaient dans la sidération et que la gestion des urgences s'imposait pour faire face aux annonces qui tombent dessus les unes après les autres et ça pleut. Il va falloir tenir debout avec des aides et des actions annulées de tous les côtés, avec une fragilisation permanente et sans anticipation. Ils font référence notamment au gel des passes culture, à l'arrêt des subventions du département de l'Hérault et toutes les retombées aussi des diminutions drastiques dans la culture qui se répercutent à tous les échelons territoriaux. Il faudra donc encore lutter pour que le démantèlement de la vie culturelle, associative et sociale, puisque c'est bien de tout cela dont il est question, ne devienne pas un quotidien navrant. On ne baisse pas les bras et ils invitent donc tous les gens qui les suivent à se retrouver lors des rendez-vous, à savoir donc ce samedi à Montpellier à 14h30 pour une manifestation festive. Devant le départ, c'est devant le centre chorégraphique, on est au métro Louis Blanc. Petit retour d'ailleurs sur la manifestation de samedi dernier dans les colonnes du journal Le Point avec un G, où on décrit une manifestation pleine de tonus et de diversité qui dénonçait les mesures ultra-violentes imposé au domaine de la culture par le président socialiste du département de l'Hérault, à savoir M. Kléber Mesquida. Ça fait suite donc à la suppression par lui-même de 100% des budgets alloués à la culture, hormis les compétences obligatoires et les organismes où il est directement engagé par une convention, comme par exemple avec la métropole de Montpellier. Sur cette prise de décision, d'ailleurs, il ne s'exprime que par communiqué de presse, sans même les semblants d'une apparence de concertation ou voire seulement de courtoisie en discutant avec les acteurs de ce domaine. Et c'est Frédéric Michelet qui est cité dans l'article avec son humour grinçant, une grande figure locale du théâtre de rue de Montpellier, qui interpelle justement le président en disant « Mais vous ne pouvez pas réduire la culture à 0%. Sinon, qu'est-ce qu'il va rester comme décision à prendre pour le Rassemblement National quand il vous aura remplacé ?» Voilà, on en garde quand même le sens de l'humour. En tout cas, l'effet de sidération de toutes ces mesures de début d'année a été total, puisqu'il n'y a pas eu une collectivité de droite ou d'extrême droite en France pour l'instant à avoir manifesté une telle brutalité de méthode, ni une telle radicalité dans la liquidation de cette exception républicaine française qu'est le service public de la culture, qui cherche à favoriser la création artistique et son accès au plus grand nombre. Les manifs, en tout cas, rassemblements sur Montpellier semblent prendre de l'ampleur, puisque les effectifs se multiplient une semaine sur l'autre par 4. Entre 600 et 700 personnes étaient donc présentes depuis 2 semaines à ce point de rendez-vous boulevard Louis Blanc, mais principalement des professionnels de la culture, et l'absence donc du public se fait cruellement sentir. On donne aussi la parole à Claire Engel, la responsable du syndicat des compagnies indépendantes. Et elle fait le point aussi sur la situation locale. Tous les lieux intermédiaires qui permettent de travailler, le théâtre du hangar, le théâtre d'eau, deviennent inaccessibles. On nous propose d'énormes pôles, comme ici devant nous. Elle fait référence à l'Agora de la danse. Et pendant ce temps, la formidable génération des jeunes de l'après-Covid qui sortent des écoles avec la pêche, bourrés d'idées et d'envie, sont laissés à l'arrêt dans le désespoir face au climat, aux guerres, à l'extrême droite triomphante. La liberté qu'offrent nos métiers est indispensable. À ces jeunes, ouvrons les portes. C'est pour cela que je me bats. Que conclut-elle donc son intervention. Donc voilà, on ne baisse pas les bras dans la culture et il vous invite à vous retrouver donc pour ce samedi à 14h30 à Montpellier devant le centre chorégraphique Louis Blanc. Au tramway Louis Blanc. C'est pas le centre chorégraphique, c'est l'Agora de la danse, c'est tramway Louis Blanc, direct depuis Occitanie. On part à Toulouse maintenant, dans le dossier de l'A69 où des écureuils sont de nouveau montés dans les arbres avant une audience décisive. Plusieurs opposants à la 69, hein, c'est deux dont on parle quand on parle d'écureuils, ont grimpé dans les arbres avec leur matériel d'escalade en face du tribunal administratif de Toulouse à la veille d'une audience cruciale. En effet, la justice pourrait bien annuler l'autorisation du chantier de l'autoroute. Donc 6 de ces militants se sont installés dans la nuit de dimanche à lundi en face de l'entrée du tribunal. On est mobilisé pour accentuer la pression, disent-ils. Cela fait 2 ans qu'on attend que la justice prenne ses responsabilités dans le dossier de la 69. Le tribunal administratif de Toulouse doit en effet examiner aujourd'hui, mardi 18 février, une requête déposée par plusieurs associations au mois de juin 2023, requête qui demande donc l'annulation d'une autorisation environnementale pour cette autoroute. Et si le juge décidait d'accéder donc aux demandes des requérants, le projet d'autoroute entre Toulouse et Castres pourrait bien être stoppé. Un enjeu de taille donc, puisque malgré 2 ans de chantier, malgré toutes les procédures, le chantier avance et le concessionnaire Atosca doit toujours effectuer des travaux très impactants, notamment le bitumage de ces quelques 53 km de tracé. Pour l'instant, c'est surtout du défrichage et de la construction d'ouvrages et bien évidemment les machines qui ont raclé tout le sol pour mettre la terre à nu. La décision donc de stopper l'avancée de l'A69, qui semblait peu probable en vue des enjeux politiques et économiques qui pèsent de tout leur poids dans ce dossier, est désormais peut-être envisageable pour les opposants, après notamment qu'aient été publiées des conclusions de la rapporteure publique Mona Rousseau. C'est 2 fois de suite d'ailleurs, en novembre et il y a quelques jours, que l'enquête de cette magistrate indépendante a conclu à l'absence de raison impérative d'intérêt public majeur et elle a donc conseillé au tribunal administratif d'annuler cette autorisation environnementale. Lors de la précédente audience, donc du mois de novembre, Mona Rousseau avait déclaré que les arguments du concessionnaire peinaient à convaincre. Malgré donc des conclusions sans appel, le tribunal avait à l'époque choisi de rouvrir l'instruction au mois de décembre, ce qui laissait encore au concessionnaire Atosca le temps de poursuivre le chantier en attendant la nouvelle audience. Il va falloir du courage au juge pour suivre les conclusions de la rapporteure publique, mais c'est ce que de nombreux citoyens du Tarn et de Haute-Garonne lui demandent. Pour nous, ces conclusions sont une évidence depuis le début, lance Tanus, un des militants écureuils grimpés dans les arbres. Et au-dessus de lui, assez connu aussi, puisque c'est le fondateur du groupe national de surveillance des arbres, se trouve Thomas Braille, lui allongé dans son hamac, suspendu à quelques mètres de hauteur. On a aussi voulu attirer l'attention des médias sur ce qui se joue au tribunal, sur l'importance de l'audience. On n'a pas la même force de pression économique et médiatique que le groupe Pierre Fabre, par exemple, qui avait fait du chantage à l'emploi lors de la précédente audience, mais on a toute la mobilisation citoyenne et populaire avec nous. Ils font référence au fait que le groupe Fabre a sa principale usine, justement, à Tarbes, et qui est très, très partie prenante dans ce dossier d'autoroute. Dans les vidéos qui ont été postées sur les réseaux sociaux du collectif La Voix est libre, qui s'oppose à la 69, de nombreuses personnalités, comme les acteurs Bruno Solo ou Mélanie Laurent, l'activiste Paul Watson, nouvellement libéré et qui réside en France, ou la chanteuse Émilie Loiseau, ont eux aussi appelé les pouvoirs publics et la justice à abandonner ce projet d'autoroute et à se mobiliser ce mardi, donc dès 8h, sur le parvis de la gare Matabiau à Toulouse, à quelques pas du tribunal administratif. Sur le boulevard Bon Repos, certaines voitures klaxonnent en guise de soutien aux écureuils. On ne sait pas encore combien de temps on va rester dans les arbres, assure un de ces écureuils. L'audience était prévue ce matin à 9h, mais la décision du juge, elle, devrait être rendue publique seulement d'ici une quinzaine de jours.
Changez le monde, vous êtes bien sympathique, mais on va déjà vous lever le matin. C'est pas le monde qui va se plier à vos désirs, les enfants. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est le vrai monde dehors. Mais le vrai monde, il va chez le coiffeur.
Du monde.
Et hier soir, à Paris, environ 700 personnes ont manifesté devant la gare de l'Est au lendemain d'une agression très violente devant les locaux d'une association de travailleurs immigrés à Paris. C'était ce dimanche 16 février qu'une trentaine de militants d'extrême droite ont donc fait un raid, perpétré une attaque contre l'organisation de jeunesse kurde qui s'appelle Young Struggle. Une organisation donc, dans les locaux desquels était organisée une projection de film contre le fascisme. Il passait le film Z de Costa Gavras, un excellent film au demeurant. Un militant de la CGT présent justement à l'accueil de cette projection a été blessé au couteau et conduit à l'hôpital par la suite. Il en est sorti sans trop de gravité et il explique donc au journal Bastamag. Il était environ 17h30 quand j'ai entendu du bruit au niveau de la porte d'entrée de l'immeuble. Je suis allé ouvrir et j'ai vu des têtes cagoulées et masquées. Ils ont réussi à entrer, j'ai pris un coup de casque et ils m'ont roué de coups dans la cour intérieure de l'immeuble. J'ai aussi reçu des coups de couteau qui m'ont légèrement blessé. C'était donc le jeune militant au sein de Young Struggle et à la CGT qui sortait tout juste de l'hôpital et s'exprimait aux journalistes qui l'interviewaient. Un autre militant d'ailleurs qui est venu avec lui a réussi lui à se réfugier derrière la porte blindée du local de l'ACTIT, c'est l'association culturelle des travailleurs immigrés de Turquie. Lui en est sorti sain et sauf. Ce 16 février, donc le dimanche, les militants de l'organisation Young Struggle, une organisation de jeunesse internationaliste et socialiste liée à la communauté kurde, ont donc essuyé une attaque d'ampleur de l'extrême droite parisienne en plein jour dans le 10e arrondissement de la capitale. Cette action a mobilisé entre 25 à 30 militants vêtus de noir, armés de bâtons et de couteaux et de tessons de bouteilles, d'après la préfecture. Sur place, d'ailleurs, les assaillants ont laissé un autocollant avec écrit Cob Veil, K-O-B, ce qui est le nom d'un groupuscule hooligan de Parisiens, Cop of Boulogne, bien connu pour leur penchant idéologique. Deux vidéos ont été tournées depuis les fenêtres des voisins dans la rue. On fait rapidement le tour des réseaux sociaux. On voit donc toute cette bande de jeunes hommes en noir partir en courant. Hilar d'ailleurs, assez content de leur coup. Et ils chantent Paris est nazi. Et ils chantent aussi Lyon est nazi. Donc visiblement, il y a peut-être quelques Lyonnais dans l'équipe. Un rassemblement donc hier soir pour dénoncer cette attaque et dénoncer la montée du fascisme devant la gare de l'Est était organisé à l'appel de différentes organisations, notamment la CGT. Dans son communiqué, d'ailleurs, le syndicat dénonce une attaque de l'extrême droite contre des militants, alors que l'association Young Struggle et des camarades kurdes organisaient la projection du film dans les locaux de l'association. Suite à l'attaque, les forces de l'ordre ont interpellé 6 personnes dans le métro, toutes issues de la mouvance de l'extrême droite radicale, selon une source proche du dossier. Ces personnes ont été placées en garde à vue et les autres ont pris la fuite. Pour ce qui est de l'attaque et de la cible, donc, un des militants de l'ACTIT, qu'on appellera Ali, explique qu'il pense qu'ils ont été identifiés par les fascistes car ils font partie du comité de soutien à Gino. Gino, c'est un militant antifasciste italien qui est emprisonné en France. Cette organisation Young Struggle a été fondée il y a 5 ans en Allemagne, et elle est née en France. Et il se déploie aujourd'hui également en Autriche, en Suisse et au Royaume-Uni. Par ailleurs, c'est pas la première fois que le mouvement kurde, très présent dans le 10e arrondissement de Paris, fait l'objet d'attaques de l'extrême droite, puisque le 23 décembre 2022, trois Kurdes avaient été assassinés dans une rue perpendiculaire à celle où a eu lieu l'attaque dimanche soir. On était à côté du centre culturel kurde, rue d'Anguien. L'auteur de la tuerie, un homme de 69 ans, avait déjà été condamné d'ailleurs pour une attaque d'un camp de migrants muni d'un sabre un an plus tôt, puis libéré. Ce lundi, le parquet de Paris indique qu'une enquête a donc été, ouverte pour tentative d'homicide volontaire. Elle a été confiée au 2e district de police judiciaire. Et selon donc toujours la même source proche du dossier, sont évoquées de nouvelles auditions des mises en cause, avec notamment l'exploitation d'éléments de téléphonie. Et les gardes à vue hier soir ont été prolongées. En tout cas, au rassemblement de Paris, donc devant la gare de l'Est, le ministre de l'Intérieur était au cœur de la colère, avec notamment ces mots comme quoi Bruno Retailleau légitimait les groupuscules d'extrême droite avec une rhétorique accusée de lâcher la bride aux groupuscules radicaux. Le gouvernement turc d'ailleurs, on parle là-bas, accentue la pression sur les mouvements et les sympathisants pro-kurdes accusés de terrorisme, en même temps que se poursuit un dialogue engagé à son initiative avec le PKK, en vue peut-être d'une trêve. Près de 300 membres présumés d'organisations terroristes ont donc été arrêtés au cours des 5 derniers jours, c'est ce qu'annonçait le ministre de l'Intérieur turc Ali Yerlikaya, et il visait nommément donc le PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan. Ces arrestations ont d'ailleurs aussi ciblé 3 journalistes, et elles ont été effectuées sur une cinquantaine de provinces du pays, dont la province d'Istanbul, celle d'Ankara, ou des régions à majorité kurde dans l'est du pays. Plusieurs de ces arrestations ont visé des responsables d'un parti politique, le parti pro-kurde DEM, le DEM, qui est la troisième force au Parlement. Et justement, c'est ce parti DEM qui est directement impliqué dans le dialogue initié en ce moment avec le pouvoir, notamment avec... avec les partis kurdes, notamment Abdullah Öcalan, qui est le fondateur et chef historique du PKK, qui est toujours détenu à l'isolement depuis 26 ans sur l'île prison d'Imrali au large d'Istanbul. Apo, comme on le surnomme, Öcalan, âgé de 75 ans, pourrait appeler le PKK à déposer les armes après des décennies de guérilla, et cela en échange de concessions démocratiques du pouvoir à l'égard de la minorité kurde. Une délégation donc de ce parti du DEM a d'ailleurs été autorisée à rencontrer le leader Abdullah Öcalan à 2 reprises. Cette délégation se trouve depuis dimanche dans le nord de l'Irak pour une série d'entretiens avec les autorités de la région autonome du Kurdistan dans le cadre donc de cette médiation visant peut-être à déposer les armes. Mais le DEM donc est simultanément dans le viseur des autorités qui ces derniers mois ont destitué 9 de ses maires élus démocratiquement dans des régions à majorité kurde, ils ont été remplacés par des administrateurs nommés par les autorités. Pour Sinan Ülgen, qui est chercheur associé à la Fondation Carnegie Europe, en agissant ainsi, l'objectif du gouvernement turc est d'avancer avec une position avantageuse, à savoir la négociation, tout en envoyant le message que si les négociations n'aboutissaient pas, il était prêt à accentuer les pressions sur le DEM. Pour autant, rappelle aussi un autre observateur du Middle East Institute à Washington, le président Recep Tayyip Erdogan a laissé depuis le début son allié nationaliste du MHP en première ligne des négociations, histoire de ne pas se salir les mains si jamais les choses ne se passaient pas comme prévu. Pour cette chercheuse, le chef de l'État joue ainsi sur 2 tableaux. D'un côté, il poursuit les négociations avec le PKK, sans avoir vraiment adhéré à l'idée, et de l'autre, il continue comme d'habitude avec les Kurdes, c'est-à-dire qu'il les cible, les emprisonne, les désigne et s'en prend aux édiles kurdes démocratiquement élus. Après la ville de Erbil, où elle a rencontré les autorités du Kurdistan autonome, dont le leader historique kurde Massoud Barzani, la délégation du DEM poursuit donc aujourd'hui ses consultations. Elle sera notamment à Souleymaniye, deuxième grande ville du Kurdistan irakien, pour y rencontrer Bafel Talabani, le président de l'Union patriotique du Kurdistan, qui est l'autre formation historique des Kurdes en Irak. La Turquie a, elle, déjà connu de précédents espoirs de paix sur ce qu'on pourrait appeler la guerre avec le Kurdistan, mais la dernière trêve en 2015 avait volé en éclats pour déboucher sur une explosion de violence, en particulier dans le sud-est du pays. Selon une estimation communément admise, ce conflit avec le PKK a causé, depuis 1984, au moins 40 000 morts.
C'est pour ça.
Ça ne veut plus rien dire, hein?
C'est pour ça que je crois que j'ai besoin d'un petit remontant. Je vais demander un petit café, c'est pour ça.
un café de Colombie peut-être, où les choses ne vont pas très bien non plus. Deux groupes armés imposent en ce moment une guerre à la population, donc un regain de violence, et peut-être une des pires crises humanitaires de la Colombie. C'est ce que titrait en tout cas le média indépendant Mongabay Latam, un média indépendant latino-américain. Depuis le 16 janvier, la guerre en effet reprit dans la région du Catatumbo. On est dans le nord-est de la Colombie, à la frontière avec le Venezuela. Une guerre entre le groupe armé de libération nationale, l'ELN, ce qui veut dire Ejército de Liberación Nacional, et le Front 33, Frente 33. Ce Front 33, et il est composé des dissidents des FARC, qui avaient refusé de rendre les armes, justement, après un accord de paix signé avec le gouvernement colombien en 2016. Le bilan, la semaine dernière, au 8 février, annonçait déjà au moins 56 victimes et plus de 50 000 personnes déplacées depuis la reprise du conflit. Selon Iris Marin, défenseur du peuple, qui est chargé de veiller au respect des droits humains, il s'agit du plus important mouvement de personnes déplacées enregistré depuis 27 ans en Colombie. L'enjeu de ce conflit qui se déclenche donc et qui s'embrase à nouveau, eh bien c'est le contrôle d'un axe important du narcotrafic dans cette région riche en ressources naturelles et stratégiques pour la production de cultures illicites de coca, la plante de laquelle on extrait la cocaïne. Le Catatumbo concentre en effet 43 000 hectares de plantations de coca. Ça fait presque 40% du total des zones de culture de coca de ce pays, qui est un des plus gros producteurs mondiaux. Les deux groupes, donc ELN et Frente 33, les dissidents des FARC, cohabitaient plus ou moins paisiblement jusqu'en 2022, quand justement le Frente 33 s'est rapproché du commandement central des dissidents des FARC et qu'un nouveau commandant, qu'on appelle Richard, est arrivé à leur tête avec des velléités expansionnistes dans la région, ce que l'ELN a considéré comme une menace. En ce mois de janvier, la violence s'est donc déchaînée, après notamment l'assassinat d'une famille, dont un bébé, dans la ville de Tibou, au nord-est du pays. Et dans ce cas précisément, aucune des deux guérillas d'ailleurs ne veut reconnaître la tuerie. Richardo Claro, qui est maire de cette ville de Tibou, qui est l'épicentre du conflit, était interrogé par le site colombien Voragine. Il raconte justement que les familles ont fui la ville et lui ont dit qu'elles avaient été déplacées parce qu'elles avaient accueilli quelques semaines auparavant l'autre groupe armé, des groupes armés qui s'invitent sans trop attendre, eh bien justement, qu'on soit d'accord ou pas. Et après, l'autre guérilla vient et vous reproche de les avoir accueillis. Les gens disent qu'ils ne peuvent plus sortir dans la rue, car s'ils parlent avec l'armée, ils deviennent la cible de la guérilla. Et s'ils parlent avec la guérilla, ils deviennent la cible de l'autre guérilla et de l'armée. Sympa donc pour la population. Plus de 30 000 habitants ainsi de ce Catatumbo sont coincés au beau milieu des combats entre les deux groupes armés. Le 17 janvier dernier, le président colombien Gustavo Petro avait suspendu les négociations de paix avec l'ELN, qui avait débuté à son arrivée au pouvoir en 2022. Le lendemain, il déclarait l'état de commotion intérieure, un état d'urgence donc dans la région pour 90 jours. Et le 31 janvier, il lançait une opération militaire conjointe d'ailleurs avec l'armée du Venezuela. Toutes ces mesures inquiètent les organisations de la société civile qui craignent notamment la criminalisation de leurs structures et davantage de militarisation dans une région qui a souffert auparavant de violations des droits humains par l'armée. Pour Junior Maldonado, qui officie dans le journal indépendant Mutante, la sortie de crise doit être sociale et politique, notamment à travers le plan d'investissement social qui est promis par le président depuis 2022, mais qui se fait attendre. Un plan qui prévoit en particulier la construction de l'université publique du Catatumbo, qui pourrait répondre au manque d'opportunités de la jeunesse, qui est pour l'instant condamnée pour la plupart à travailler justement dans ces plantations de coca. Malgré les combats en cours dans la région, la population et les organisations de la société civile ont organisé une caravane pour la paix entre Ocaña et El Tara, les 3 et 4 février derniers. Elle demande maintenant le cessez-le-feu, la reprise des négociations de paix et la signature du plan territorial pour la transformation de la région. Dans une vidéo du média Baudo Agencia Pública, le leader paysan Alberto Castillo appelle le gouvernement colombien à faire rêver la communauté du Catatumbo à la construction de la paix. Mais pour le moment, donc, ce rêve semble loin de se réaliser. Voilà à méditer donc aussi tout ce qui se passe derrière le commerce et la consommation de cocaïne dans nos contrées.
Il y a de quoi se vendre la gueule, non ?
Et de quoi rigoler aussi à Tchernobyl, un petit incident, tiens, ça faisait longtemps. La coque a été percée, mais aucune fuite significative à déplorer pour l'instant. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que ce 14 février, aux alentours de 2h du matin, un drone de marque russe a frappé l'arche de confinement, donc le sarcophage de la centrale nucléaire de Tchernobyl, en Ukraine. Cette arche, c'est une coque de protection qui renferme les déchets radioactifs du réacteur accidenté numéro 4, le fameux réacteur à l'origine de la plus grande catastrophe nucléaire civile. C'était en 1986. Si ce drone, qui était armé d'une ogive hautement explosive, est parvenu à trouer l'installation et à provoquer un incendie, l'incident n'a fait aucune victime, précise le site de la centrale. Aucune fuite de substances radioactives au-delà des limites établies n'a été enregistrée. Sur sa chaîne YouTube, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, accuse l'armée de Vladimir Poutine d'avoir perpétré l'attaque. Sans démentir, le porte-parole du Kremlin assure pourtant que les militaires russes ne visaient pas les installations nucléaires. Jamais le moindre projectile n'avait touché directement une structure abritant un réacteur depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. Cet assaut contraint donc l'Ukraine à reporter les travaux de démantèlement du sarcophage, puisque cette arche abîmée ne permet plus de les mener sans risque. Sur le réseau social Telegram, le chef de l'administration ukrainienne, Andriy Yermak, a épanché sa colère en rappelant que dans les années 80, le monde entier avait aidé le Kremlin à éliminer la tragédie de Tchernobyl. Et on reste dans les couacs avec, aux États-Unis cette fois-ci, le site Doge, D-O-G-E, piloté par Elon Musk, eh bien, qui a été piraté. Des hackers se sont moqués en effet du gouvernement américain. C'est un article trouvé dans les colonnes de Clubic.fr qui s'intéresse beaucoup à l'industrie numérique. L'infrastructure web de ce projet gouvernemental DOGE est une véritable passoire ouverte à tous, ou presque. En raison de sa mauvaise conception, en effet, le site officiel donc, de l'initiative du gouvernement américain, vous savez le fameux site de l'efficacité gouvernementale piloté par Musk avec ses 4 jeunes recrues, eh bien, visiblement, il est protégé de manière complètement dérisoire, ce qui laisse libre cours aux intrusions malveillantes et qui compromet la sûreté des données sensibles. Le Doge Department of Government Efficiency, donc, qui a pour projet de réaliser des milliers de dollars d'économies, peut-être des millions même, dans les dépenses du gouvernement fédéral américain, en modernisant les systèmes gouvernementaux, utilise pour cela, soi-disant, des technologies avancées pour améliorer l'efficacité et la transparence des services publics. Eh bien, depuis le mois de janvier, donc, cet organisme a un site officiel qui s'appelle doge.gov, donc l'extension officielle de tous les sites gouvernementaux. Il a été passé au crible par des experts en sécurité qui ont alerté ensuite le média 404 en signalant une série de défaillances qui remettent en question l'intégrité même du système. C'est assez ironique quand on y pense, surtout que l'infrastructure est censée héberger des informations très sensibles sur les systèmes financiers fédéraux. La principale tare du site, pour les passionnés, se trouve dans la conception de la base de données. Je comprends pas, mais je vous explique quand même. Au lieu d'implémenter une architecture multicouche sécurisée, le site utilise une connexion directe à sa base de données, accessible sans vrai mécanisme d'authentification robuste. C'est une configuration qui expose donc l'interface de gestion des données à quiconque possède des conséquences techniques basiques pour identifier les points d'accès. Et ainsi, toute modification ou publication de contenu indésirable est rendue possible. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait les deux experts qui ont repéré cette faille béante. Ils ont, défiguré le site en insérant des entrées non autorisées dans la base de données aussi fragile qu'un mur de paille, selon eux. Les messages, c'est « This is a joke of a .gov site. Ce site gouvernemental est une blague. » Et ils ont écrit aussi sur la page d'accueil « These experts left their database open. » Les experts ont laissé leur base de données ouverte. Donc des messages directement visibles sur la page d'accueil du site. Le site d'ailleurs opère en dehors des serveurs gouvernementaux traditionnels. Hein. Musk il a voulu faire les choses de son côté en s'affranchissant notamment des protocoles de sécurité fédéraux standardisés. Et cela alors même que la bannière le présentait donc comme un site officiel du gouvernement des États-Unis. Donc c'était déjà un petit peu en dehors des clous. Et ce site en plus est resté complètement vide pendant plusieurs semaines après son lancement. Hein. Il n'y avait que 3 lignes de texte et un logo caricatural sur la page d'accueil qui a depuis été retiré. Jeudi dernier, il y a eu un peu de changement hein, puisque le site s'est mis à intégrer les publications du compte X du Doge en présentant notamment quelques statistiques sur la réglementation gouvernementale et la fonction publique fédérale. Et d'ailleurs, c'était tout.
C'était vraiment très intéressant.
Allez, je ne vais pas vous laisser là-dessus. On reste aux États-Unis où de très fortes manifestations d'opposition ont eu lieu pour la traditionnelle journée du président. C'était hier. De nombreux manifestants ont tenu à dire que le duo Donald Trump-Elon Musk n'était pas leur président dans plus de 50 États et 50 villes, à l'appel notamment des réseaux sociaux hashtag 505J1 et Build the Resistance, donc le hashtag Construisons la Résistance. Prochaine étape pour ces mobilisations, les 28 février, 7 mars et 14 mars, avec notamment une journée sans achat pour s'en prendre à leur profit, une journée de boycott d'Amazon et une journée aussi de grève générale. La participation n'était pas encore massive, mais toutefois non négligeable pour un simple appel sur les réseaux sociaux. Après déjà des succès pour les 2 et 6 février, des rassemblements avaient eu lieu contre la politique anti-migrant de Donald Trump. Ce dernier compte toujours sur la sidération, la peur et l'effroi provoqués par ses 50 décrets en un mois et peut-être aussi sur l'inertie des directions des partis démocrates ou des directions syndicales. Il compte peut-être aussi beaucoup sur la complaisance ou la bêtise des grands médias qui relayent cette peur, mais sans relayer avec autant d'ampleur que l'immense majorité de ces décrets ont d'ailleurs été depuis suspendus par des juges, ou ils relayent encore moins justement l'opposition à Trump et Musk qui se joue, elle, dans la rue. Chers amis, c'est là-dessus qu'on se quitte. Je vous donne rendez-vous jeudi pour d'autres nouvelles du monde. D'ici là, portez-vous bien, restez au chaud et à très vite.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interviews, communiqués. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il ?
Mais que se passe-t-il ?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.